La Serre par Edmond Jaloux. La fin de mon adolescence coïncida avec une de ces maladies qui gardent toujours un caractère mystérieux, et dont on se demande s'ils ne naissent pas d'un malaise de l'esprit plus encore que d'un trouble de la croissance. Fièvre crépusculaire, langueur, âpre désir de la vie en même temps que sa terreur, cauchemars nocturnes, légères angoisses, préoccupation de la mort, tous ces mots n'en formaient qu'un. Je traînais de chambre en chambre un corps moite, des pensées qui prenaient plaisir à constater leur propre désenchantement. À la longue, ma famille s'inquiéta. Les médecins qui me soignaient et qui ne connaissaient que deux espèces de malades, ceux qui n'avaient rien et les moribonds, ayant voulu rassurer mes parents à tout prix, on en consulta un autre. Celui-ci fut plus affirmatif, ou plus ménagé de sa clientèle. Il déclara que mon état, sans aspirer la moindre inquiétude immédiate, demandait des soins réfléchis, un changement d'air rapide. Du jour au lendemain, je fus transporté dans une propriété que mon père venait de louer aussitôt et où mon premier acte fut d'attraper la grippe et d'aller de mal en pire. Ma convalescence dura près d'un mois et quand je pus enfin sortir de ma chambre où chauffait sans cesse un brouillon de feuilles d'eucalyptus qui me faisait penser aux enfants du capitaine Grant de Jules Verne et à ses descriptions de l'Australie, je fus enchanté par mon nouveau domaine que j'avais à peine aperçu à travers les vitres de la voiture qui m'y avait conduit. Des pins, rien que des pins. Un bois qui n'en finissait plus de multiplier ses troncs minces, écaillés d'argent, blessés de roses, suintants de résine. Des branches, à perte de vue, toutes chantantes, toutes balancées, ne s'opposant à aucune brise, tournant autour de leur axe comme les pagaies d'un canotier. Un immense espace dans le clair-obscur, glissant et feutré d'aiguilles rousses. Pas une fontaine, pas un accident de terrain. Un sol sec qui conservait la chaleur de l'été en allée et vous la soufflait au visage comme à travers le conduit intérieur d'un chalumeau. J'arrivais tout de même au bout de la plaine boisée. Les arbres s'arrêtaient d'un commun accord. Je vis un mur bas et au-delà, un parc sablé planté de cèdres. Deux ou trois serres aux vitres scintillantes, l'une haute comme une chapelle, s'alignaient derrière le mur. Un pavillon de garde-chasse ou de jardinier avait l'air de veiller sur elles. Je croyais m'être perdu dans une contrée sauvage. Je retrouvais quelque chose qui sentait la civilisation et même le luxe. J'en eus à la fois une certaine déconvenue et du plaisir. Ce beau jardin, ces serres closes, offraient plus de problèmes à ma curiosité naissante qu'une forêt monotone et privée de faune ou de dryade. Je demeurai là longtemps, ébahi et vaguement satisfait. Mille désirs s'éveillaient en moi. Qui habitait ce parc? Quelles fleurs entretenaient ces serres? Il me semblait déjà que j'allais voir une véritable horde de jeunes filles bondissantes, avec leurs yeux tendres, envahir les allées, casser des branchettes, rire et courir ensemble ou plonger soudain sous les vitrages étincelants. Le soir venait. En tournant la tête, je regardais le soleil qui se couchait au-delà de ma forêt de pins. Une immense rougeur envahissait le ciel crépusculaire qui, morcelé et encastré par les arêtes des rameaux, avait l'air d'un fabuleux vitrail de pourpre divisé par des croisillons noirs. Il commença à faire plus froid. J'eus un léger frisson. La fièvre renaissait. Rien n'apparaissait de l'autre côté du mur, ni jeune fille, ni femme, ni même jardinier. Les vitres s'éteignaient peu à peu. Tout déçu, je me mis à courir. Le bois était interminable. J'avais trop présumé de mes forces. J'arrivais en sueur et hors d'haleine dans notre nouvelle demeure. Je dus me coucher aussitôt. La nuit, j'eus un peu de délire. Le lendemain, je ne pus me lever. Ce fut une longue journée de langueur et de rêverie. Ma pensée errait sans cesse autour de cet endroit mystérieux, à cet espace clos où des fleurs que j'estimais tropicales, on ne met pas sous verre des balsamines, des pois de senteur, des belles donzeurs, devaient vivre d'une vie intense et sourde, où des êtres que j'estimais luxueux et singuliers venaient sans doute leur rendre visite. La nuit suivante, je fis des rêves bizarres. Je me trouvais pris dans la spirale d'un escalier qui plongeait au centre de la terre, encore un souvenir de Jules Verne, je pense, et quand je fus arrivé au bas, je me trouvais devant de vastes vitrines qui protégeaient des sortes de magasins pleins de fleurs. C'étaient des fleurs énormes, aux formes nouvelles, aux couleurs informulables. Certaines se terminaient par un petit cône fragile de cendre ou de pastel, mêlé d'argent, de rose et de jaune ardent. Des filaments de dentelle constituaient les autres, ou des tentacules d'une chair bleuâtre et capucine à la fois. Je sais bien que de telles choses ne se décrivent guère. Si je le tente, c'est pour indiquer les détails et la limite de leur différence avec la réalité quotidienne. Mais bientôt, les fleurs se modifièrent sous mes yeux. Elles devinrent des visages de jeunes filles qui me parurent d'une grande beauté. Elles demeuraient attachées à leur tige par un torse qui allait en s'évasant et dont je m'aperçus au bout de quelques secondes qu'il était nu, mais d'une teinte de coquille, à la fois nacrée et chatoyante et sans aucun mamelon. Alors les jeunes filles fleurs commencèrent de se tordre dans leur vase. Elles tendaient vers moi des mains admirables, de la même matière que leur torse, et je les entendais crier d'une voix suppliante « Délivre-nous, délivre-nous !» Éperdu d'angoisse et de terreur, je frappai de mes deux poings aux vitres, au risque de les briser et de me blesser grièvement. Mais elles sonnaient sous mes efforts comme des plaques de tôle. Mon anxiété fut telle qu'elle me réveilla. Le jour naissait. Des coqs chantaient dans le voisinage. Un oiseau jetait sous ma fenêtre une bulle de chant qu'il rattrapait au vol, relançait de nouveau en l'air, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un autre lui répondît. J'étais tremblant, inondé de sueur, persuadé que ma vraie mission m'était apparue en rêve et que je devais délivrer des jeunes filles captives. J'étais, ne l'oublions pas, à la fin de mon adolescence. À peine sorti, je me dirigeais vers le parc. Le soleil chauffait les aiguilles de pin, donnait à tel tesson de bouteille oublié dans un coin une fulguration de diamants. Le ciel, entre les cimes, ressemblait par sa forme et son éclat à la coupole d'une église peinte plutôt qu'à cet abîme des terres. Quand j'arrivai devant le petit mur, je vis qu'une jeune femme sortait de la serre et s'éloignait dans la direction de ce qui devait être la maison invisible. Elle était grande, svelte, très élégante, vêtue de gris, une écharpe nouée autour du cou, sans chapeau, ses cheveux blonds, très clairs, étincelaient au soleil. Je restai à demi caché derrière les pierres et le chèvrefeuille, le cœur battant. Ainsi mon intuition et mon rêve disaient vrai. Il y avait ici une personne digne de tous les dévouements, mais de quoi souffrait-elle? De quoi devais-je la délivrer? Je méditai là-dessus toute la journée. Le lendemain, j'interrogeai le jardinier sur notre mystérieuse voisine. Ses renseignements furent vagues. Elle s'appelait Mademoiselle de Saint-Léon. Elle était riche, vivait toute seule, ne fréquentait personne. On la voyait peu et presque toujours enveloppée d'une écharpe. Elle aimait les fleurs et habitait une grande maison de campagne dont elle n'occupait que deux ou trois pièces. Une telle peinture ne pouvait qu'attiser tous mes désirs et les plus romanesques d'abord. Comment faire connaissance avec Mademoiselle de Saint-Léon? Et à quel titre l'aborder? Si je n'avais écouté, comme on dit, que mon courage, je l'aurais guetté. Je me serais jeté à ses pieds. Je lui aurais crié avec l'accent de la conviction la plus sincère. « Mademoiselle, vous ne me connaissez pas et je vous connais. Je sais que vous avez l'âme la plus ombrageuse, la plus défiante, mais aussi la plus belle et la plus chimérique du monde. » Or, vous ignorez qu'il y a à côté de vous le seul être qui puisse vous comprendre, un adolescent qui aime tout ce que vous aimez, qui a, comme vous, l'amour des vers les plus rares, des romans les plus délicats, des fleurs les plus extravagantes. Je ne vous demande rien que de vous connaître, de passer mes soirées auprès de vous, de vous dire ces choses extraordinaires qui me remplissent l'esprit et que je ne peux confier à personne. Me repousserez-vous ? Comment admettre que quelqu'un d'aussi maussade et d'aussi terne ait pu le remplacer dans la succession de mes mois? Pendant des heures, je me tenais aux aguets derrière le petit mur. Ce sont les seuls jours de ma vie auxquels j'aimerais revenir. Une force extraordinaire me portait, il me menait les idées les plus étranges du monde. Ah, pensais-je, Mademoiselle de Saint-Léon, comment n'avez-vous aucun soupçon de mon existence? Comment un désir aussi aigu, aussi poignant que le mien, ne traverse-t-il pas l'espace, n'agite-t-il pas, d'une façon anormale, les feuilles qui se soulèvent par moments sous vos fenêtres? Ne vous avertit-il pas que quelqu'un est là, dans l'ombre, consumé de la nécessité de vous voir? Ah, si je pouvais être malheureux, comme je le serais en ce moment! Mais septembre est si beau que je n'ai pas la force de me décider à souffrir. Les abeilles qui s'acharnent sur les petites couronnes des fleurs de lierre m'enveloppent de raies si entrelacées et si multiples que j'ai le sentiment d'être peu à peu embaumé dans des bandelettes de miel et de devenir une momie de parfum. J'ose à peine bouger. Le ciel est bleu jusqu'à Constantinople. Les pins me bénissent. La terre brûle comme un encens. Je ne peux croire que je ne sois pas tout près d'entrer dans un royaume fabuleux. Aimez-moi, Mademoiselle de Saint-Léon. Je sais de l'amour tout ce que savent les fleurs de lierre. Il blesse, il pille, et il compose loin de vous quelque chose qui vous ressemble à peine et qui est capable de vous remplacer. Si, par quelque invraisemblable miracle, Mademoiselle de Saint-Léon avait eu vent de mes divagations, je suppose qu'elle en eût bien ri. Mais si, à la suite de quelque événement insolite, elle se fût soudain présentée devant moi, j'ai bien peur que ce mirifique verbiage eût cédé la place à une paralysante crise de timidité. Cependant, mon audace croissant avec la renaissance de ma santé, je mis sur pied une expédition dont j'avais rêvé plusieurs semaines. Une nuit de lune, je sortis en cachette, quand tout le monde me croyait couché, et franchissant le mur de séparation, j'allais me promener dans la propriété voisine, au risque d'être pris pour un cambrioleur ou attaqué par des chiens. Il est vrai que dans cette éventualité, j'avais emporté dans mes poches deux côtelettes encore roulées dans le gros papier jaune et rude du boucher. J'ai toujours pensé par la suite que les entreprises poétiques devaient toujours avoir, en guise de contrepoids, des quartiers de viande saignante qui faisant pu en tisser les doigts de leur fadeur et de leur odeur de sang. Je vis sur une terrasse plantée de platanes une villa moderne, assez laide, tout volet clos. L'endroit me parut extrêmement banal et me donna une vive désillusion. Personne, ni jeune fille ravissante, romanesque, prête à puiser son inspiration amoureuse au l'air de la lune, ni fée, ni suivante de comédie au mollet rond sous une jupe courte. Désappointé, j'en revins en arrière et m'avisai alors que la serre n'était pas close. Je tournai la clé. Merveilleuse surprise! Il régnait une touffeur tropicale. Cette odeur d'eau, de terre saturée de vanille qui flottait entre les vitres me suffoqua presque, tant elle était violente. L'excès de chaleur m'étourdissait aussi. On entendait tomber sur les feuilles hautes et larges les gouttes produites par l'évaporation. Ce bruit régulier et mystérieux rompait seul l'invraisemblable silence. Je vis que j'étais entouré de fougères et de bananiers. La lumière de la lune, entrant à travers les vitres, faisait traîner ici et là des dentelles éparses ou mettait une flaque d'argent sur la feuille gaufrée d'un énorme bégonia. Du plafond pendaient des orchidées qui laissaient traîner à hauteur de mon front les sacs bronzés des cyprépédiums ou les étoiles blanches d'une vanda. Des céréus épanouissaient de profonds calices nacrés ou roses vifs qui ressemblaient à des nénuphars. Des fleurs inconnues couvraient des étagères. C'était bien ici que je devais attendre ma bien-aimée ou lui donner rendez-vous. Aucun lieu du monde ne serait plus propice à l'amour. Mon exaltation était telle que j'en versais des larmes d'attendrissement. J'aurais voulu presser quelqu'un, quelque chose, contre mon cœur. Mais tout était si fragile que je n'osais toucher à rien. Si j'avais étreint un bananier entre mes bras, sans doute l'aurais-je rompu. Peut-être, en effet, étais-je entré dans le vrai royaume de l'amour. On ne pouvait toucher à quoi que ce fût sans le détruire. Le lendemain, à midi, au moment où je prenais place dans la salle à manger, ma mère me dit « Je suis en train de me demander si tu n'es pas devenu fou. J'ai trouvé deux côtelettes dans la poche de ton veston. Je voudrais bien savoir ce que tu comptais en faire. N'es-tu pas assez bien nourri ici ?» Je devins naturellement pourpre. « C'est pour les chiens, » balbutiai-je. « Quels chiens ?»« Les chiens en général. » On ne put me tirer un mot de plus. Mais depuis lors, ces côtelettes incompréhensibles demeurèrent une légende familiale. Toutes les fois que j'accomplissais un acte quelque peu bizarre, on se disait avec des airs entendus « N'oublions pas qu'il s'agit du jeune homme aux côtelettes ». Personne ne se douta que ces mutton chops étaient en passe de devenir plus symboliques encore pour moi. La visite de la serre m'avait fait perdre le peu qui me restait de raison. Après beaucoup de tergiversations, je finis par écrire à Mademoiselle de Saint-Léon. Je n'ai pas gardé le brouillon de ma missive, c'est fort heureux, car je mourrais de honte, je crois, de la relire. Quand mon improvisation eut été mise à la poste, l'absurdité de ces termes devint si évidente que si j'avais pu fuir, je l'aurais fait. Je redoutais que Mademoiselle de Saint-Léon ne vînt trouver mes parents, dont je craignais les humiliants sarcasmes, et ne leur remît mon poulet. Cela n'arriva pas, et bien au contraire, ce qui survint, ce fut une réponse, un billet simple, amical et charmant, que j'ai toujours gardé. Mademoiselle de Saint-Léon m'y disait ceci. « Cher monsieur, je suis un peu honteuse de la lettre que vous m'avez écrite. J'aurais pu la prendre pour une amère plaisanterie si je n'avais appris que vous étiez tout jeune, solitaire et souffrant. On m'a dit de vous des choses si gentilles que je n'ai pas voulu croire à une mystification de votre part. Je n'accuse donc que votre jeunesse et votre désœuvrement. Mais ne m'écrivez plus. Je ne suis en rien la personne que vous imaginez. Je suis moi aussi une solitaire et je le suis pour toujours. » J'ai des raisons de le rester. Malgré vous, à travers vos paroles, je retrouve les vains et flatteurs échos d'un monde où je n'ai point de place. Il y a dans votre sincérité juvénile quelque chose qui m'a touché. Aussi vous ai-je répondu pour vous décourager tout à fait. D'ailleurs, je pourrais être votre mère. » Ce billet fit un effet tout contraire à celui que Mademoiselle de Saint-Léon escomptait. Le dernier mot, surtout, acheva de me convaincre que cette réponse était une feinte. Ma mère me paraissait toute jeune, elle l'était d'ailleurs, et elle était charmante. Et puis j'avais vu passer deux ou trois fois Pauline de Saint-Léon. La grâce de ce corps souple, la légèreté de sa démarche, l'harmonie de ses mouvements, le buisson ardent de sa chevelure dansaient toujours devant mes yeux enamourés. J'écrivis une nouvelle épître. Je révélai à ma correspondante que je l'avais surprise à différentes reprises, la guettant derrière le petit mur. Cette fois, mes paroles parurent la vexer. Elle riposta en ces termes. « Ici, il s'agit d'indiscrétion, presque d'espionnage. Je suis bien prêt de me fâcher. » Le jeune homme poétique dont j'excusais les billevesées sentimentales, par égard pour ma situation affligeante, me paraît tourner aux policiers ou aux persécuteurs. Si je ne peux plus me promener en paix sous mes armes sans crainte d'être poursuivi, obsédé par vous, que devrais-je faire? Avertir vos parents ou quitter mon jardin? Avouez que cette double perspective est fort désagréable. Il n'est jamais trop tôt, monsieur, pour apprendre à devenir un galant homme. Ne me persécutez donc plus, et ne troublez pas mon existence, qui n'a que trop de motifs déjà d'être à plaindre. D'ailleurs, si vous m'avez vraiment vu, vous n'avez que plus de raison de vous abstenir. » Ce billet laissait la porte ouverte à un échange qui m'enchantait. C'était ma première correspondance amoureuse. Je ne l'aurais abandonnée pour rien au monde. Mais en la poursuivant, j'apprenais d'instinct des ruses que quelques semaines plus tôt, je n'eusse même pas soupçonnées. J'écrivis donc à Pauline de Saint-Léon que j'étais désolé de l'avoir offensée, que mon âge laissait voir une impatience dont j'étais honteux, que mon seul désir était de lui témoigner mon dévouement et mon respect, qu'elle ne devait point prendre en mauvaise part les transports d'une imagination naturellement volcanique. Je lui affirmai enfin que j'étais tout prêt à ne plus lui écrire si elle m'accordait la faveur d'un rendez-vous, d'un unique rendez-vous si elle l'exigeait. Elle n'avait rien à craindre d'un enfant. Je devais, dans peu de temps, quitter la maison que nous habitions depuis ma maladie. C'était un mensonge qui se trouva hélas devenir une vérité, et je serais trop malheureux d'abandonner ces lieux sans l'avoir vue une seule fois. À ma grande joie, elle ne me dit pas formellement non, mais elle tergiversait, m'imposait des conditions, exigeait une sorte de contrat. Elle prétendait ne rien me promettre avant que j'eusse pris l'engagement d'interrompre toute correspondance aussitôt qu'elle aurait accepté de me rencontrer. Je m'insurgeais pour la forme. Nouvelle et plus énergique protestation de sa part. Je finis par tout accepter. Que n'aurais-je juré pour arriver à mes fins? Avec la stupide fatuité de la jeunesse, je me persuadais facilement que si elle venait me trouver enfin, elle y reviendrait d'elle-même, et qu'elle n'invoquerait plus mes serments. Ce fut ainsi que j'obtins le rendez-vous tant désiré. Ma peine fut-il fixée que ma belle hardiesse cessa de me soutenir. Tout au contraire, la crainte s'empara de moi. C'est une chose que d'écrire, de se croire maître du monde, de jouer au Don Juan, et c'en est une autre de se trouver la nuit, seul avec une personne beaucoup plus âgée que vous, sans doute expérimentée et qui risque fort, sur la moindre maladresse, de vous traiter en petit garçon stupide et prétentieux qu'il faut renvoyer à l'école. Je passai la journée qui précéda le rendez-vous dans un véritable abattement. Comme si ma mère avait eu l'intuition qu'il se passait en moi un phénomène extraordinaire, et comme si elle découvrait un air de parenté entre ma mine déconfite et celle que j'avais faite un jour précédent, elle me demanda narquoisement si elle ne découvrirait pas le lendemain de nouvelles côtelettes dans mes poches, ou même un aloyau tout entier. Je crus que tout était découvert et je devins rouge de confusion, mais heureusement, personne n'y prêta la moindre attention. À l'heure indiquée, je sautai le mur. Nous devions nous rencontrer devant la serre. Peu après, Mademoiselle de Saint-Léon arrivait. Elle était vêtue de noir et portait sur le front une mantille qui cachait en partie l'éclat de ses cheveux. J'avais demandé au voisinage de la lune sa complicité. Je comptais sur elle pour entraîner la jeune fille sous les bananiers et les ficus. Mais ce n'était pas le bel astre complet qui errait dans le ciel. N'importe, ce croissant sera peut-être plus utile à mes desseins. Mademoiselle de Saint-Léon avait un charmant visage mutin et riant. Ce n'était nullement celui que je lui eusse attribué d'après sa démarche et son port de tête. Elle me parut moins grande aussi, comme la distance allonge les gens au lieu de les rapetisser. Elle avait les manches courtes, de jolis bras ronds et frais et une voix dont le timbre me parut quelque peu vulgaire. Si cet ensemble me déçut d'abord, je me réjouis aussitôt après de cette légère déconvenue, car, descendue de son piédestal, Pauline de Saint-Léon cessa de me faire subir le poids d'une timidité dont j'avais craint l'influence. Je commençai par couvrir de baisers les mains de la jeune fille. Elle protesta pour la forme. Je lui tins d'absurdes propos qu'elle écouta avec un visible plaisir. « Laissez-moi voir vos yeux, m'écriai-je, j'ai tellement rêvé de vos yeux. » Je la conduisis dans un espace vide où le mince clair de lune régnait librement. J'inclinai sa tête en arrière. Elle avait les yeux de ce bleu qu'on a coutume d'appeler père et qui a tant de charme. Je vis aussi une bouche étroite, dont je dirais approximativement qu'elle était tout en hauteur, pour essayer de préciser sa forme exacte, une bouche qui ne ressemblait à aucune autre. Je voulus alors l'effleurer, elle me repoussa. « Oh oh ! » dit-elle, « cela n'est pas dans nos conventions. Vous avez voulu me voir une fois avant de quitter la Timone. C'était le nom du village auprès duquel nous habitions tous deux. Je suis venu pour vous être agréable et aussi parce que je voulais moi aussi savoir comment était fabriqué un jeune fou de votre espèce. Pour le moment, vous êtes très gentil, mais j'ai bien peur qu'avec l'âge, vous deveniez un fat bien ennuyeux. « Merci, » dis-je vexé. « Je ne vous ai pas promis non plus de ne vous faire que des compliments. » Tout en parlant, je l'entraînai vers la serre. Elle ne résistait point. Plus je regardais Mademoiselle de Saint-Léon, plus elle me plaisait. Il sortait d'elle une vétusté ardente dont je me sentais tout grisé. Il me semblait déjà que ma première aventure d'amour promettait d'être des plus belles. Avec cette faible lumière qui se glissait à travers les vitres, la serre était plus mystérieuse encore. Les bananiers, les ficus, prenaient des proportions gigantesques. La vapeur d'eau retombait toujours en gouttes sonores dans les hauteurs arborescentes. L'odeur de vanille, d'humus, de roses exotiques, de décomposition végétale me montait à la tête. On s'étonnait de voir les fleurs des cypripédiums, des vandas, des céréus, éveillées comme en plein jour, refusant de perdre une minute de leur brève vie passionnée. Mademoiselle de Saint-Léon voulut ressortir tout de suite. Je la retins. Nous échangeions des paroles entrecoupées. J'avais la gorge sèche et serrée. Mes mains tremblaient. Elle prit peur de mon changement d'attitude. Trop tard. Déjà, je l'enlaçais. Elle eut beau se débattre, je m'emparais de sa bouche. Elle se défendait mal, d'ailleurs, comme si elle avait peur de briser une plante, d'abattre une fleur, de causer un désastre au milieu de ces belles créatures végétatives. Ce baiser avait augmenté ma frénésie. Je voulus écarter la chemisette de la jeune fille, traîner ma bouche sur sa gorge, sur ses épaules. Mes gestes furent si brutaux que l'étoffe se déchira. Le mouvement que fit Mademoiselle de Saint-Léon pour m'échapper libéra un de ses seins durs, blancs, pleins de la plus robuste exubérance. Mais je n'eus pas le temps de m'en saisir. La jeune fille m'appliqua sur le nez un coup de poing qui m'étourdit une seconde. Elle avait fui, elle courait dans l'allée. Mais avant de sortir de la serre, elle avait eu le temps de me décocher. Imbécile ! L'imbécile rentra chez lui fort penaud. Il avait l'impression de s'être conduit comme un goujat. Les livres qu'il avait l'habitude de lire lui conseillaient cependant la hardiesse. Avait-il été trop hardi ? Avait-il déplu ? Ou bien, aux quelques mots qu'il écrirait le lendemain, recevra-t-il la lettre de pardon que, dans les romans, le jeune imprudent reçoit toujours après une algarade de ce genre ? J'ai dormi mal. Le remords, la crainte d'avoir gâché par mon impatience un si bel avenir, la folie voluptueuse que je conservais de cette entrevue initiale avec l'amour, il n'avait eu lieu jusqu'ici qu'en rêve. Tout cela me forgea une nuit qui me parut alors affreusement pénible, mais dont je donnerais beaucoup pour retrouver aujourd'hui le tourment. Dès le matin, j'écrivais de nouveau à Mademoiselle de Saint-Léon. Les protestations d'amour enflammé y alternaient avec les excuses, les supplications avec le repentir. Peine perdue, je ne reçus aucune réponse. Je me piquais à ce jeu. Je m'obstinais d'autant plus que cette fois, j'étais sérieusement épris de la jeune fille. Mais Mademoiselle de Saint-Léon gardait le silence. J'allai une nuit jusqu'à la serre. Elle était fermée à clé. Pour la première fois, je m'avisai alors que j'avais peut-être été bien imprudent, ou bien stupide, et que tout était fini. Tout était fini, en effet. Je ne voulus pas le croire. Je m'acharnais. J'allais à différentes reprises errer sous les fenêtres closes de Mademoiselle de Saint-Léon. Mais un jour, je reçus le billet suivant, d'une écriture qui n'était pas la sienne. La gendarmerie a été avisée qu'un inconnu se promène la nuit dans la propriété de Mademoiselle de Saint-Léon. Si M. Jacques Mesmin ne veut pas être arrêté comme malfaiteur, il fera bien de se tenir sur ses gardes. Je n'eus pas le temps d'avoir beaucoup de chagrin ni une grande indignation de ce procédé. Quelques jours après, mon père était pris soudain de douleurs violentes. Une opération urgente fut décrétée. On le transporta en ville, où nous le suivîmes. Il ne survécut pas à l'intervention. Ma mère, ma sœur aînée et moi, nous demeurions à peu près sans ressources. Ce fut pour moi là l'apprentissage de la vie auprès duquel l'expérience pénible de la serre perdit son caractère nocif. Ma mère dut prendre des pensionnaires et ma sœur donnait des leçons de piano. Double humiliation pour mon amour-propre, humiliation d'autant plus cuisante que l'une et l'autre se sacrifiaient à mon avenir. J'acceptais leur abnégation avec le dessein de réussir au plus tôt et de les sortir de peine. Ma santé s'était raffermie, peut-être parce que personne n'avait plus le loisir de s'occuper d'elle. Je me consacrais à la médecine. 25 ans passèrent. Je n'avais plus de nouvelles de Mademoiselle de Saint-Léon, ni le temps de penser souvent à elle. Un jour que j'effectuais ma tournée matinale dans une salle d'hôpital, je m'arrêtai devant le lit d'une malade entrée la veille. Elle était atteinte d'une pneumonie double. En l'examinant, je fus frappé par la forme de sa bouche, qui remua vaguement en moi un souvenir obscur. C'était une bouche petite, resserrée, saillante, tout en hauteur. Le visage flétri et coloré ne me rappelait rien. La malade s'appelait Rose Paumont. Son état me parut grave. Sans en deviner la raison, je recommandais tout particulièrement s'être hospitalisé à la vigilance des internes et des infirmières. Le lendemain, la maladie avait empiré. Pourtant, quand elle me vit auprès de son lit, Rose Paumont eut une sorte d'éclair de plaisir dans l'œil. L'auscultation terminée, elle me demanda « Docteur, ne vous appelez-vous pas Jacques ?»« Oui, pourquoi cette question ?» Une ébauche de sourire passa sur les lèvres de la mourante. « Ne vous souvenez-vous pas de Mademoiselle de Saint-Léon ?» Brusquement, je revis cette bouche si particulière que j'avais touchée de mes lèvres à la fin de mon adolescence, dans une serre chaude, au milieu des bananiers et des cactus. Mademoiselle de Saint-Léon serait devenue impossible, cependant. La tournée des malades finie, je revins m'asseoir auprès de Rose Paumont. « Êtes-vous Mademoiselle de Saint-Léon ?»« Mademoiselle de Saint-Léon est morte. Je ne suis que sa sœur de lait. Mais ce n'est pas Mademoiselle de Saint-Léon que vous avez eu affaire autrefois. C'est à moi. » Elle rougit encore à ce souvenir, puis sourit d'en avoir rougi. Mademoiselle de Saint-Léon, me raconta-t-elle, était venue au monde défigurée. La moitié de son visage portait une de ces taches auxquelles le langage populaire donne le nom d'envie. Une partie de l'œil, du front, une tempe, l'œil gauche, toute la joue, offrait une peau rugueuse, tuméfiée, couleur de vin sale. Pauline en souffrait d'autant plus qu'avec son corps admirable, elle avait dû se confiner dans la solitude et ensemble, orgueilleuse et pudique, fuir le regard des vivants. Mes lettres l'avaient bouleversée. Personne ne lui avait parlé d'amour. Elle m'avait envoyé sa sœur de lait, que l'aventure amusait, pour avoir dans sa vie l'ombre d'un rendez-vous, pour savoir comment j'étais, ce que je dirais. Ma hâte et ma sottise avaient tout gâché. Mademoiselle de Saint-Léon avait défendu à Rose de me revoir. « Sans cette défense, seriez-vous revenue, Rose ?»« Ma foi, docteur, je peux bien vous le dire aujourd'hui, oui. » Mais quel plaisir avait dû prendre la vieille fille à cette substitution ? Et je compris que la pauvre créature avait voulu, par la feinte d'une fausse identité, donner à un jeune homme l'illusion que Mademoiselle Pauline de Saint-Léon avait été elle aussi une femme charmante, capable d'être aimée, et presque amoureuse d'elle-même. Ainsi s'achève La Serre par Edmond Jaloux.